Le prophète de la non-paix n'est plus celui qui éveille en blessant. Il blesse, c'est tout. Et la blessure est voulue par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu veut blesser? Non. Il blesse. Dieu fait mal parce qu'il est Dieu. Et c'est cela que nous voudrions supprimer. Nous voudrions toujours supprimer que Dieu soit Dieu. Nous voulons toujours le domestiquer, le contrôler, le vérifier, l'évaluer. Et c'est lui qui nous évalue. Vous voyez, ça nous donnerait une certaine sécurité. Dieu n'est pas là pour nous donner une sécurité. Il est là pour nous aimer. Et l'amour, quand il est trop grand, nous blesse. Parce que nous voulons toujours d'un amour à notre mesure. Et un amour divin, c'est trop fort. Un amour divin, ça nous fait exister en quelque sorte au-delà de nous-mêmes. Pourquoi nous avons peur de rencontrer Dieu? Mais cette peur n'est pas mauvaise. Dans la Bible, on l'appelle la crainte du Seigneur. Ce n'est pas une peur extérieure. C'est une peur très profonde. La peur d'être aimé par Dieu. Être aimé, oui, nous le voulons, c'est inscrit en tout notre être, par Dieu. Ça, c'est plus difficile. Et voyez, même dans notre langage, nous essayons d'adoucir les contours. Et de dire que l'amour de Dieu est bienfaisant, et il l'est. De dire qu'il est consolant, et il console. Mais il ne le fait pas à la manière d'un homme qui veut épargner le mal à l'autre. Il nous dit, non, tu peux avoir mal, je suis dans ce mal. Et notre geste, notre attitude instantanée, c'est de l'écarter, de l'écarter, de l'écarter encore. Jusqu'au jour où nous ne pourrons plus l'écarter. Et si nous avons vécu un moment ou des moments dans notre vie où nous avons pu tout lâcher, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, tout lâcher, en disant, je m'en vais, je ne sais pas vers où, mais je m'en vais. Je perds pied. Nous pourrons un peu découvrir ce que ça signifie s'abandonner à l'amour. Nous désirons toujours avoir comme des preuves de l'amour avant de nous abandonner. Mais ce n'est pas un abandon. C'est un abandon sécurisé. Et toute notre vie est faite de sécurité. Nous nous entourons constamment de sécurité. Et plus nous nous entourons de sécurité, plus la vie devient insécure. S'avancer sans armes. d'un peu la situation dans laquelle nous met ce prophète Jérémie. Et nous pensons que cet être réduit, cet être aliéné, alors que c'est le véritable chemin de la vie. Si nous croyons, si nous essayons de croire que notre vie nous a été donnée, que nous sommes en quelque sorte donnés à nous-mêmes, avant que tu ne sois dans le ventre maternel, je t'ai connu. Avant que tu ne sois sorti du sein, je t'ai consacré. Et nous croyons vraiment que notre vie est un don. Notre mort l'est encore davantage. C'est un cadeau ineffable. Et à telle enseigne, comme je vous l'ai déjà dit quand nous avons vu le livre du Deutéronome, à telle enseigne que le moment de cette mort est un don de Dieu, est un, pour utiliser le terme utilisé par le Deutéronome, un baiser de Dieu. Je reprends le texte. C'est à la fin du Deutéronome, dernier chapitre, chapitre 34e. Malheureusement, il n'est pas dans nos éditions, parce que on traduit toujours avec prudence. Donc, Dieu a pris Moïse par le bras sur le mont Nebo, au sommet des monts de Moab, et il lui a montré tout le pays. Ce pays que j'ai donné par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces termes, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Et dans le Midrash de ce texte, Moïse, pendant des jours et des jours, supplie Dieu de le laisser quand même passer avec le peuple de l'autre côté. Et il ne se rend pas compte que ce que Dieu lui ce à quoi Dieu le destine, c'est de passer de l'autre côté, c'est-à-dire en lui-même. C'est là, et voilà simplement ce que dit le texte, c'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur, en terre de Moab, et selon ce que je lis dans la traduction, selon l'ordre du Seigneur. Il, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, vis-à-vis du lieu où l'on avait forniqué, où l'on avait blasphémé, où l'on s'était uni avec des gens de Canaan. Jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Nul n'a connu son tombeau. Mais le texte grec dit, le texte hébreu, pardon, dit, c'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur en terre de Moab, Alpi Adonai, sur la bouche du Seigneur. C'est vrai que c'est aussi sur l'ordre du Seigneur. Mais le terme est fort. Il mourut sur la bouche du Seigneur. Et le Midrash, c'est-à-dire l'explicitation mystique du texte, le Midrash nous dit que le Seigneur vint lui donner un baiser et qu'il passa tout entier dans la présence du Seigneur. Après avoir résisté pendant des jours et des jours. Notre mort est une création. Nous avons été créés sans nous en rendre compte, et nous avons mis du temps avant de nous rendre compte que nous existions. Et nous avons mis encore bien plus de temps avant d'essayer de nous appartenir à nous-mêmes et de nous accepter tels que nous sommes. Et nous ne sommes pas encore au bout, hein. Et nous attendons le moment de notre création. Du moment, nous attendons ce moment de ce que nous appelions tout à l'heure, cette synergie entre le potier et l'argile. Nous attendons le moment où nous allons nous laisser vraiment façonner, je dirais en connaissance de cause. Nous laisser façonner notre propre visage d'éternité. Et donc, puisque c'est à cela que nous sommes destinés, à ce moment de liberté suprême, si nous essayons de le vivre déjà maintenant. C'est, me semble-t-il, ce à quoi Jérémie nous invite. Mais je m'empresse de dire, si je vous dis ça et si je me dis cela, avec une grande paix intérieure, c'est en même temps avec crainte et tremblement. Parce que je ne sais pas ce que je dis. Je le crois, mais je ne sais pas ce que je dis parce que je ne l'ai pas réalisé, je ne l'ai pas vécu. Sinon, en de petits moments. Pâques 1982. Nous étions dans la mosquée et un homme a surgi, tirant sur tout le monde. Et nous avons été épargnés. Mais ce moment où nous nous sommes dit, nous pouvons y passer. D'un doigt, dans la paix. Un moment comme cela, un moment qui nous sont donnés comme des, j'allais dire hein, du mot anglais, comme une opportunité. C'est bien dit, je crois. Une opportunité plutôt que occasion, une opportunité de nous laisser aimer totalement. Totalement. Il y a des moments comme cela dans la vie, et ce sont des instants d'éternité. Nous en reparlerons quand nous nous retrouverons de l'autre côté. Mais on voit bien que Jérémie se trouve dans cette situation-là de tout abandonner. Job se trouve aussi, mais c'est une fiction, dans une situation extrême. Jésus se trouve aussi, et ce n'est pas une fiction. Et il a peut-être plus que nous la connaissance de la cause, c'est-à-dire de ce qu'il fait. Je dis peut-être plus que nous. Parce que, comme le dit saint Ignace, la divinité se cache. Et il y a un mot dans Jérémie sur lequel revient justement Néer, c'est ce oulaï, peut-être. Peut-être. Voilà ce qu'il dit. Il dit que Jérémie est l'homme du peut-être. Du peut-être, c'est-à-dire que je ne domine pas cet avenir. C'est ce qu'il appelle l'angoisse qu'éprouve Jérémie Haïssez le mal, aimez le bien, instituez le droit à la porte, peut-être Dieu prendra-t-il en pitié le reste de Joseph. C'est une phrase qui vient d'Amos et qu'il applique à Jérémie. Amos 5, chapitre 5, verset 15. Peut-être. Oula. Un rabbi du Talmud pleurera un jour en relisant ce verset. Tant de conditions, dira-t-il, et peut-être. Ce seul mot restituait les rapports de Dieu et de l'homme dans leur véritable incertitude. Il brisait le ressort mécanique que l'on se flattait d'apercevoir entre l'en bas et l'en haut. Rejaillissant sur la doctrine du repentir, il en éclairait simultanément les deux faces. Il indiquait d'une part que Dieu n'était pas comptable à l'homme de sa grâce et que les caricatures humaines les plus odieuses étaient susceptibles d'être accueillies par Dieu avec sérieux. D'autre part, il rendait caduque par avance tous les espoirs que l'homme attachait à une conduite vraiment repentante. Nous voudrions encore être sûrs de nous repentir. Alors même que l'annonce du malheur était déchiffrée comme un appel au repentir, alors même que ce repentir était réalisé avec toutes les ressources de probité et de foi dont les hommes pouvaient disposer, rien n'assurait le pardon divin. Je me remets totalement à son amour miséricordieux. En faisant entrevoir celui-ci comme une hypothèse seulement, je dirais plus que cela, et non comme une certitude, oui, ça c'est vrai, peut-être maintenait intacte la possibilité du malheur annoncé. Peut-être Dieu pardonnera-t-il. Mais peut-être aussi le repentir est-il impossible. Le déchiffrement de l'annonce est-il erroné. Peut-être l'homme a-t-il rapproché de son propre champ visuel ce Dieu lointain qui échappe à la perspective humaine et qui pourtant ne se révélera jamais à lui que dans cette perspective-là. Il n'a pas Jésus. Et nous voyons que ce peut-être se transforme en Jésus dans ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une remise à l'amour. Nous n'avons plus aucune certitude en nous-mêmes. Seulement l'amour. Celui qui nous accueille. Et voyez, ce peut-être dit très bien notre insécurité profonde dans la sécurité de Dieu, dans la certitude, dans l'assurance, on préfère dire assurance, de Dieu qui nous accueille. Voilà un peu la méditation dans laquelle me mène Jérémie, avec l'aide de tous ces auteurs que j'ai utilisés.
Dis Jean, parce que tu viens de faire comme une confession, et au moment où tu étais sur la table d'opération, tu as reconnu ce même moment.
Pas sur la table d'opération, mais après. Sur la table des soins intensifs. J'entendais la voix d'une infirmière qui disait l'attention baisse. Et à ce moment-là, nous ne dépendons que des machines et de ceux qui les surveillent. C'est ça la remise entre les mains de Dieu. Elle part. passe par tout cela. Et c'est aussi l'amour de ces personnes et leur responsabilité à laquelle nous faisons confiance. Mais je trouve que ça donne un sentiment de grande paix intérieure, de pouvoir faire confiance et de dépendre en tout. Même si ce n'est qu'une fraction de seconde. Encore plus si c'est quand même quelques heures. Mais moi, ça me paraît quelque chose d'important. Des moments comme cela, et qui nous sont donnés, nous ne les programmons pas. Merci.
Merci.
Et ce genre littéraire des oracles, vous comprenez bien que le Seigneur ne téléphone pas tous les matins à Jérémie, que Jérémie n'a pas de répondeur. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu parle-t-il le langage de chacun des prophètes? Avec Isaïe, il parle comme Isaïe. Avec Ézéchiel, il parle comme Ézéchiel. Avec Amos, il parle comme Amos, avec les images d'Amos. Et avec Jérémie, il parle comme Jérémie. Cependant, tous les prophètes disent toujours « Le Seigneur m'a parlé » ou « Parole du Seigneur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils parlent à partir d'une expérience. Donc, ils n'ont pas d'enregistreur. Et donc, c'est leur expérience qu'ils disent. Et ils se mettent en transparence, en quelque sorte, entre cette présence de Dieu qu'ils vivent, qu'ils ressentent, et qui doit bien s'exprimer de la manière dont ils sont eux-mêmes. Et donc, d'où le langage différent de chacun des prophètes, quand Dieu parle, mais d'une manière tout à fait semblable. Vous avez la même chose dans le Nouveau Testament, parce que Matthieu parle de Dieu comme Matthieu parle, et Jean a un autre langage. Et ils font parler Jésus à la manière dont ils le ressentent, dont ils le perçoivent. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Mais il faut nécessairement que cela passe par un langage humain, un langage que chacun doit s'exprimer exactement comme il est lorsqu'il est touché au plus intime de lui-même. Et alors, vous voyez que Jérémie se plaint à Dieu et Dieu se plaint à Jérémie. Il se renvoie la balle en quelque sorte. Pourquoi? Mais parce que Jérémie ressent en quelque sorte, à sa manière, à lui, à la manière de Jérémie, il ressent cette présence de Dieu comme quelqu'un de blessé. Tellement lui s'est identifié à cette présence de Dieu et il sent cette blessure en lui-même. Et donc il ne faut pas s'étonner s'il va prendre pour parler à Dieu les accents que Dieu prend pour parler à Jérémie, ou le contraire. Il voit Dieu comme le blessé qui se plaint à son peuple. Il lui dit, mais vous m'avez abandonné. Mais Dieu ne se plaint pas à cause de lui-même. Dieu se plaint parce qu'il sait que son peuple va mal. Que ce n'est pas du tout l'avantage de son peuple d'être blessé, pas plus que lui-même. Donc c'est une sorte d'identification, et c'est ça qui fait vraiment la prophétie et le vrai prophète, c'est cette identification profonde et avec Dieu, que nous ne connaissons jamais qu'imparfaitement, nous ne le connaissons pas en totalité, nous le connaissons vraiment, mais imparfaitement. Pas parce que nous ne connaissons pas le tout d'une personne que nous ne la connaissons pas. Donc il connaît Dieu vraiment parce qu'il connaît Dieu au plus intime de son être, mais il ne peut pas l'embrasser, il ne peut pas l'enserrer, et il perçoit combien Dieu est toujours plus grand que toutes les images qu'il en a. Mais il nous donne un message particulier. S'étant identifié à Dieu, il découvre comment Dieu doit être blessé en lui-même. Parce qu'il ressent Dieu comme cela. Et lui-même est blessé aussi parce qu'il fait corps avec son peuple. Et c'est ça qui est spécifique du prophète. Identifié à Dieu d'une part et identifié au peuple d'autre part. Alors, comme il voit que le peuple est infidèle à l'alliance et donc infidèle à Dieu, il ressent cela profondément, il est blessé profondément, comme Dieu doit être blessé du fait que l'alliance est rompue. Tout cela, bien sûr, c'est une manière humaine, comme on dit anthropomorphique, hein, sur la forme humaine, de parler. C'est vrai, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on parle de révélation, Dieu se révèle. Qu'est-ce que l'on veut dire? Dieu ne peut pas se révéler directement à l'homme sans intermédiaire. Parce que Dieu est trop grand pour l'homme, il le dépasse. Et donc il serait pour l'homme tout à fait incompréhensible. De la même manière, je vais prendre l'analogie. Il y a des personnes que nous ne connaissons pas vraiment. Des personnes dont nous entendons parler. Je ne sais pas si nous rencontrons régulièrement le roi ou la reine, c'est possible. Mais nous ne les connaissons pas intimement, d'une façon générale. Mais nous les connaissons de différentes manières, par les moyens qui sont utilisés pour révéler leur présence en bien, en mal, en caricature ou en réalité. Nous avons les médias, une manière d'entrer en communication. Nous avons des écrits, nous avons des paroles. Et donc, nous connaissons les personnes d'abord que par intermédiaire. Et même, si nous connaissons une personne, avant de la connaître intimement, il faut beaucoup de temps, parfois toute une vie. Et aucune personne, aucun d'entre nous, ne peut se livrer totalement sous tous ces rapports. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le mystère de chaque personne est trop grand. Nous ne pouvons pas faire le tour du mystère d'une personne, même quand on est marié, ou même des parents pour leurs enfants, ou les enfants pour leurs parents, nous ne connaissons pas tout d'une personne, heureusement. C'est ce qui fait que le mystère de la personne, c'est-à-dire son identité profonde, s'approfondit. Je n'ai jamais fini de connaître quelqu'un. Je parle d'une connaissance profonde, je ne parle pas d'une connaissance extérieure. Nous en restons souvent à des connaissances extérieures. Des choses que l'on dit, des apparences. Mais avant de connaître profondément une personne, il faut beaucoup de temps. Et même quand nous pensons connaître quelqu'un, nous sommes encore surpris de certaines de ses réactions. C'est donc que nous n'avons pas encore perçu tout le mystère de la personne. Et d'autre part, donc, la personne ne peut pas se révéler totalement, aucune. Et d'autre part, nous ne pouvons pas la recevoir totalement. Et d'où, vis-à-vis de cette personne, nous avons toujours des manques. Même si nous voulons être attentifs au plus profond de notre être, nous ne sommes pas toujours attentifs. Il y a un adage de philosophie qui dit « Recipitur ad modum recipientis ». On reçoit selon la mesure du récipient. Si vous êtes un petit verre, vous ne pouvez pas recevoir un seau. Mais vous pouvez être rempli. Et alors, Dieu, c'est le problème de Dieu, si vous voulez. il ne peut se révéler qu'à travers ses œuvres. Et c'est ce que les psaumes disent, et ses œuvres, ben, c'est la création. On peut marcher à la trace de Dieu à travers la création, en regardant la beauté de la créature. Vous connaissez les confessions de saint Augustin. C'est à travers ce que tu as révélé de toi que je peux te retrouver. Et donc le chemin de la révélation n'est jamais terminé. Et même si, comme nous le disons, et c'est tout à fait exact, Dieu s'est révélé totalement en Jésus-Christ, nous n'avons pas encore fini de découvrir Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est derrière nous, dans le temps, hein, 2000 ans avant nous, s'il est derrière nous, il est aussi devant nous. Nous n'avons pas achevé de le découvrir. Et c'est pourquoi on nous répète inlassablement, selon un cycle de 3 ans, on nous rappelle les évangiles et on les reprend tout le temps. Et il y a un enfant qui me disait un jour, mais on a déjà vu ça, on a déjà vu au catéchisme, et puis on le revoit encore le dimanche. Ah, si c'était de l'information, ce serait un peu ennuyeux. Mais j'ai dit, oui, c'est vrai, on l'a déjà vu. Mais tu l'as vu l'an passé, et depuis l'an passé, ou il y a 2 ans, peu importe, hein, depuis l'an passé, tu as grandi, et tu réfléchis davantage. Donc tu peux encore découvrir des choses. Est-ce que tu as déjà fait le tour de toute ta maman? Est-ce que tu la connais vraiment bien? Il réfléchit deux minutes et il dit, oui, mais pas tout à fait. Je dis, pas tout à fait. Et tu verras que plus tu avanceras en âge, plus tu la connaîtras et moins tu la connaîtras. Plus tu la connaîtras, c'est vrai, tu auras une expérience plus longue, et en même temps, tu découvriras davantage qu'elle est un mystère pour toi. Et c'est ça qui fait la profondeur et l'inaccompli de toute relation et de toute connaissance. Et la difficulté, c'est quand nous pensons connaître quelqu'un, et que nous ne nous laissons plus surprendre. Dieu est celui qui nous surprend toujours. Et quand on dit dans les psaumes, ou bien dans des psaumes repris par des prophètes, on va chanter un cantique nouveau. Et le cantique nouveau, il est là depuis 2000 ans, et on le dit tout. Oui, mais la nouveauté vient du fait que c'est Dieu aujourd'hui que je chante. Et je ne l'ai encore jamais chanté aujourd'hui comme en ce jour. C'est toujours hier ou avant-hier. Cette nouveauté, c'est cette présence de Dieu, comme le dit aussi saint Augustin, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Ça tient vraiment à la relation, cela. Et une relation est toujours en partie une identification. Je m'identifie, l'enfant c'est ça très bien, il s'identifie à son père, il s'identifie à sa mère, ou à tel héros, ou à tel chanteur, etc. Il doit s'identifier à quelqu'un. C'est-à-dire, il doit entrer en relation profonde avec ce quelqu'un, et recevoir de lui et lui donner quelque chose. Et en quoi, où est originée cette relation, la relation, mais précisément dans le fait que Dieu, s'il veut se faire connaître, eh bien, il doit prendre les chemins, il doit prendre la langue, il doit prendre les apparences de l'homme auquel il s'adresse. Vous pouvez parler à un petit bébé du haut de votre grandeur, et vous pouvez aussi ou bien le prendre dans vos bras, ou bien vous faire petit. C'est s'adapter. Alors c'est ce phénomène d'adaptation mutuelle que vous avez dans les oracles. Jérémie se plaint, Dieu se plaint. Et donc, si moi je me plains, Jérémie est fait pour moi. Amos rugit, Dieu rugit. Amos a un autre langage. C'est une sorte de langage puissant, hein, c'est le lion qui rugit. Et donc, il y a un langage qui est ajusté à chacun. C'est pourquoi nous avons différents langages. 4 grands prophètes et 12 petits. Bon, maintenant, on peut quand même s'ajuster à l'un ou à l'autre. Mais donc, il ne faut pas être dupe. Et en même temps, il ne faut pas dire « Oh, c'est le langage du prophète, c'est le langage d'un homme. » Mais oui, c'est le langage de Dieu à travers un homme. Dieu se révèle à travers la création. Qu'est-ce que l'homme en fait de la création? Est-ce qu'il l'utilise à son profit? Ou bien est-ce qu'il l'utilise dans le droit fil de la création? Il y a des espèces animales ou végétales qui disparaissent. Chaque année, on en fait la nomenclature. Des espèces qui disparaissent. Donc il y a des richesses de la nature que l'homme fait disparaître. Donc l'homme est en quelque sorte destructeur de cette relation. Dieu ne crée pas en façonnant, il utilise tout le processus de l'évolution. Et c'est ça qui est extraordinaire pour Dieu. C'est qu'il prend des milliers, des millions d'années pour trouver un langage adapté. C'est vrai pour la création, pour ce que nous appelons la nature, et c'est vrai pour l'histoire. Avec l'histoire, c'est encore bien plus compliqué. Parce que Dieu, utilisant des moyens humains, des personnes humaines, il se livre à l'homme. Est-ce que l'homme va le faire avec vérité? Est-ce qu'il va vraiment transmettre? Est-ce qu'il va bien traduire? Est-ce qu'il est compétent dans l'art de la traduction? C'est toujours une question d'interprétation. Dieu se livre vraiment au langage de l'homme et à l'agir de l'homme. Et ce que la Bible nous raconte, c'est cela. C'est l'expérience, à travers des centaines d'années, pour ne pas dire des millénaires, c'est l'expérience de quantité d'hommes et de femmes qui ont vécu et qui ont trouvé un langage pour dire l'expérience qu'ils avaient de Dieu. Et chacun, à son époque, avec la situation de son époque, a trouvé un langage plus ou moins approprié. Et qui passait toujours par son propre langage, rien à faire. Quand vous transposez une musique à la flûte, au piano, ou à l'orchestre, c'est pas pareil. Mais pourtant, c'est la même musique. Mais la manière de l'exprimer, de l'interpréter, nous disons qu'il y a des interprétations. Un concours Reine-Élisabeth voit différentes interprétations du même morceau. Et les uns seront davantage intéressés ou sensibilisé à cette manière d'un japonais ou d'une thaïlandaise, je ne sais pas, d'autres à d'autres. Et alors, chacun juge aussi le jugement du jury. Et il faut trouver à travers tout cela son chemin. Et Dieu nous demande de trouver notre propre chemin à travers toutes ces cartes géographiques qui nous sont données. Et nous devons trouver notre propre chemin, notre propre expérience de Dieu, unique, unique. Et notre recherche est lente et difficile. Dieu cherche l'homme qui cherche Dieu. C'est ce que nous trouvons dans les phrases de Jérémie. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-nous revenir, achivez-nous, venez chouva. Il utilise le même terme pour dire, nous empruntons le même chemin, mais pas toujours de la même manière. Est-ce que nous nous rencontrerons? Et donc, quand nous avons fini de prier, nous pouvons recommencer à prier. Autrement dit, nous n'avons jamais fini. Fini d'essayer de nous rejoindre. Et finalement, je ne puis rejoindre que qui m'a rejoint, ou qui est en train de le faire. Et je ne me connais vraiment que dans le dialogue. Ce dialogue dans lequel je perçois à la fois ma richesse et mes manques. Et la liberté, ma liberté profonde, c'est de pouvoir m'ouvrir au dialogue avec le plus de personnes possible. Nous sommes toujours limités, c'est sûr. Nous ne pouvons pas connaître en ce bas monde toutes les personnes du monde, pourtant nous avons cette capacité en nous. Nous pouvons nous ajuster à des millions de personnes. Mais il faut du temps. Il faut apprendre la langue. Et même quand on ne l'utilise qu'imparfaitement, il faut la parler. La parler et l'écouter. Pour moi, c'est la plus grande merveille qui puisse exister. C'est cette manière dont Dieu s'ajuste à l'homme qui s'ajuste à Dieu. Chaque fois. Et c'est pourquoi chacune, chacun d'entre nous, si nous lisons un texte, nous avons une interprétation différente. N'absolutisons jamais notre interprétation. Nous pouvons la proposer, parce que nous sommes atteints de cette manière-là par le texte et donc par Dieu. Nous pouvons la proposer les uns aux autres. Et plus nous acceptons, nous accueillons ces propositions, sans n'en absolutiser aucune, plus nous nous enrichissons, et plus, comme le dit Saint Grégoire, plus nous faisons vivre le texte. Il dit que le texte s'enrichit à la lecture. Saint Grégoire dit cela dans l'introduction à son commentaire de Job. Il dit que le texte lui-même s'enrichit par notre lecture. Nous lui donnons, en quelque sorte, une existence de surcroît. Et c'est pourquoi les Juifs, qui connaissent très bien cette manière de parler, disent que chaque verset est susceptible de 70 interprétations. Une manière d'exprimer que l'interprétation est multiple. Il n'y a d'ailleurs que 4 ou 5 textes du Nouveau Testament où l'Église s'est vraiment engagée pour dire « voilà le sens profond de ce texte ». Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas encore d'autres sens, mais voilà le sens, ça veut dire certainement cela. Mais l'Église ne dit jamais « voilà comment vous devez comprendre et uniquement comme cela tous les textes de la Bible ». Elle nous propose des interprétations différentes. Et elle nous a proposé encore, dans le document de 93 sur l'interprétation de la Bible, elle nous a proposé une douzaine d'approches possibles. En nous disant, voilà ce que cela révèle, et voilà les limites. Et si vous savez ça, vous pouvez marcher. Alors, vous voyez, ce qui est magnifique, c'est que nous n'avons jamais une assurance totale. Et cette marge, cet écart entre ce que nous comprenons et celui qui se révèle, peut toujours se modifier. Je peux toujours me rapprocher, d'ailleurs, on dit des approches bibliques. Je peux toujours me rapprocher de lui. Et nous traduisons, Dieu peut toujours se rapprocher de moi. Parce que c'est une relation. Et personnellement, je crois que ces relations, cette relation de révélation, qui me semble essentielle, que vous trouvez dit dans un langage tout différent, hein, mais qui dit cela, le langage de Dei Verbum, la parole de Dieu, là, c'est-à-dire le document de Vatican II sur la révélation, précisément, est un document d'une grande richesse et qui exprime précisément cela. Si Dieu existe, il doit se révéler. Si Dieu existe, il doit se révéler. S'il se révèle, il doit prendre notre chemin. Et notre chemin, ce sont des hommes et des femmes comme nous, donc imparfaits. Donc il doit passer comme la musique divine à travers tous les instruments de notre orchestre humain. Et quand ces différents instruments forment une symphonie, nous avons chance de recevoir beaucoup plus de cette présence divine. Donc plus nous pouvons jouer d'instruments, si vous voulez, plus nous pouvons ajuster.